Bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Paroles de témoins, émission consacrée à des hommes et des femmes qui viennent rendre témoignage à ce que le Seigneur Jésus accomplit dans leur vie. Alors, mon nom est Jacques Pelletier, je suis le pasteur de l'Église réformée baptiste de la capitale et je suis en compagnie aujourd'hui de Céline Asselin, Méné Laroche.
Donc, exactement.
Originaire des Bois-Francs dans la région des Appalaches.
Oui.
Vous disiez tout à l'heure les belles montagnes.
Oui.
Donc, bienvenue Céline ce matin à nos studios dans nos studios de CFOI.
Ben merci, ça me fait plaisir.
Merci de vous être déplacée pour venir ainsi nous partager ce que le Christ a accompli dans votre vie. Ce qui m'a frappé dans votre témoignage, Céline, bien sûr, quand je dis bien sûr, c'est pour moi d'une façon un peu plus personnelle, c'est le fait que, dans un premier temps, vous avez eu, je pense, une jeunesse assez tranquille.
Oui.
Et vous étiez considérée comme une bonne petite fille.
Oui.
Sauf que ce que vous nous partagez aujourd'hui, c'est que vous n'étiez pas exactement une bonne petite fille. On se comprend que vous étiez une petite fille gentille, mais aux yeux de Dieu, c'était pas nécessairement exactement la vérité.
Non, mais c'est parce que j'étais l'aînée d'une famille de 11 enfants, et puis mon père, mes parents adhéraient aux valeurs, à la morale judéo-chrétienne. Alors, on avait été comme bien élevés, si on peut dire. Et alors, j'étais certainement une bonne fille. Mais c'est avec du temps qu'on comprend, c'était pas instantané que j'ai compris que nous sommes tous comme des brebis errantes qui suivent chacun leur propre voie. Et c'est là que j'ai compris que même en tant que bonne fille, j'étais pas une fille qui suivait Dieu, mais qui faisait à ma tête. Je suivais ma propre voie.
On se comprend bien que, du point de vue, là, on va dire de votre entourage, vous étiez quand même quelqu'un de bien. Là. On se comprend, vous n'étiez pas une petite fille tannante, rebelle extérieurement. Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est du point de vue de votre relation avec le Seigneur,
oui.
Enfin, il n'y avait pas de relation avec Dieu, tout simplement. Vous viviez...
J'étais religieuse.
Vous étiez religieuse, oui. Mais vous n'y avez pas nécessairement une véritable relation avec Dieu.
Non.
Et j'aime bien le texte que vous avez cité, qui est un texte biblique, c'est savoir que vous avez compris un jour que vous étiez une brebis errante.
Oui, je suivais ma propre voie. Alors, on entend parfois à 104.1 « Homo Mansura », je pense, là. Alors, c'est moi qui déterminais ce qui était la bonne façon de vivre à partir de ce que j'avais appris puis à partir de ce que je découvrais.
Et vous nous dites aussi dans votre témoignage, que vous avez déjà donné quelques reprises d'ailleurs, à plusieurs endroits, que vous étiez relativement heureuse, mais vous étiez quand même en quête.
Oui.
Quelque chose, notamment peut-être de plus de bonheur, peut-être, ou...
Oui, bien, on réalise tous que la vie a malheureusement une fin, et qu'un jour, on a 65 ans à l'âge de la retraite, et que si on regrette, on ne peut pas revenir en arrière pour commencer. Et je désirais surtout ne pas regretter les années qui m'avaient été accordées ici-bas. Alors, c'est pour ça que j'étais un peu en quête, j'étais un peu beaucoup en quête d'une échelle de valeur selon laquelle vivre pour ne pas regretter ma vie.
Très intéressant, cela. À 20 ans, vous avez rencontré une ancienne amie.
Oui.
Et ça a été un moment charnière dans votre existence, là.
Exactement, Christine. Elle m'a invitée à aller avec elle pour échanger un temps de lecture. Elle avait lu quelque chose de très bon ce matin-là. Et puis elle m'a dit, si tu veux, j'aimerais ça te le partager. Alors moi, qui étais en quête de réponses à des questions existentielles, je me suis dit, enfin quelqu'un qui s'intéresse à ça aussi. Et j'avais hâte qu'elle me partage ce qu'elle avait lu. Je me suis dit, je crois que ça va faire une bonne amie. À ma grande surprise, j'ai reconnu que c'était un texte des Écritures. Oh, je m'attendais pas à ça du tout. C'était dans l'Évangile de Luc, là. Et puis, c'était « Demandez, vous recevrez, cherchez, vous trouverez, car on ouvre à celui qui frappe. » Bon, là, je ne cite pas très bien le texte, mais c'est terminé en disant que si vous, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste ne donnera-t-il pas le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Et là, elle a insisté. Puis elle a dit, c'est bon, hein? Ben, c'est bizarre.
C'est surtout bizarre pour une personne qui est en recherche que de se faire lire un tel texte où Dieu dit qu'il est prêt, qu'il est près de nous et qu'il est prêt à répondre à nos questions.
Oui, ça c'est malgré le fait que je désirais acheter une Bible. Parce que quelques mois plus tôt, j'avais réalisé dans mes réflexions encore là que je croyais croire en Dieu, mais que je n'y croyais pas. j'avais réalisé que quand je prenais des décisions, l'existence de Dieu n'intervenait pas vraiment dans ma prise de décision comme facteur quelconque. C'est ça, je menais ma propre barque. Puis là, je me suis dit, ouais, j'ai toujours pensé que je croyais en Dieu, mais j'y crois pas. Et le désir était né de croire en Dieu, mais comment croire en quelqu'un qu'on connaît pas? Alors, et là, je me suis dit, bon, on m'a toujours dit que le livre qui nous en parle, c'est la Bible. Je voulais avoir confiance en lui. Pour moi, croire, c'était mener une vie qui lui faisait confiance. Alors, le raisonnement, c'était, OK, je vais acheter une Bible. En lisant la Bible, je vais connaître qui il est. En le connaissant, je vais lui faire confiance. Et j'aurai une vie caractérisée par la confiance en la personne de Dieu et de Jésus-Christ. Alors là, c'est un sentiment étrange que j'ai eu quand elle m'a lu la Bible, d'avoir eu honte malgré ce fait-là que je cherchais une Bible.
Vous avez eu honte?
Ben oui, un peu, parce que qui ose parler de la Bible? Alors pour moi, ça se lit dans son lit, lorsqu'on est tout seul enfermé dans sa chambre. Mais on n'en parle jamais de ça lorsqu'on est entre amis puis dans la parenté. Alors, mais en même temps, j'avais de l'admiration pour elle parce qu'elle avait osé parler franchement de ce qu'elle croyait.
Donc, vous avez été élevée dans un milieu judéo-chrétien, enfin un milieu catholique, hein, et, ouais. Vous adhériez à certaines valeurs, mais vous réalisiez qu'il fallait plus que cela. Qu'il fallait pas seulement que vous aviez un besoin de mieux connaître ce Dieu-là dont on vous avait parlé et ce qu'il attendait de vous en fin de compte.
Oui, parce que un auteur encore que j'ai pas lu beaucoup, mais il montrait que quand on croit, ça mène à des actions. Alors il donnait un exemple. Il dit, si vous pensez qu'entre catholiques vous êtes tous frères et que vous marchiez sur la grande rue, il y avait des grandes rues à l'époque à la place des centres d'achat, et puis que vous rencontrez un pur étranger catholique, si vous pouvez pas l'inviter chez vous à prendre un café en tant que frère, il dit, vous croyez croire que vous êtes tous frères, mais vous n'y croyez pas. Mm-hmm. Et c'est ça que j'avais réalisé. C'est que cette croyance que j'avais ne menait pas à, concrètement à quelque chose dans ma vie.
Donc, vous étiez en quête.
Oui.
En recherche. Et puis là, encore une fois, c'est ce qu'on entend souvent dans les témoignages, enfin pas souvent, mais dans tous les témoignages chrétiens, n'est-ce pas? Providentiellement, vous faites cette rencontre de cette ancienne amie, Christine, et elle vous cite un verset biblique qui a un rapport avec le fait que celui qui cherche véritablement va trouver réponse, bien sûr, s'il cherche au bon endroit.
Exactement.
Que Dieu est là et qu'il est prêt à répondre à nos questions et même à intervenir dans notre vie, parce que vous avez cité l'évangile de Luc où le Seigneur dit que Dieu est prêt à donner son Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent et qu'il va se faire un plaisir que de le faire. Et donc, vous vouliez vous acheter une Bible. Christine vous arrive avec ce verset-là. Je suppose que vous êtes acheté une Bible.
Je croyais qu'une Bible, c'était le prix d'un dictionnaire, et quand on gagne 70$ par semaine, et que, puis déjà c'était un pas pire salaire, là, et qu'on pense que la Bible coûte 50$, on ramasse son temps ses sous. Imaginez-vous qu'elle en avait une sur elle, qui était prête à vendre 1$.
On se trouve à être en quelle année, ça, Céline?
74
pour situer les gens lorsqu'ils entendent parler des salaires. Là, c'est...
Oui, c'est ça.
Vous n'étiez pas nécessairement sous le seuil de la pauvreté à l'époque.
Non.
Mais non. Quand même, vous n'étiez pas non plus riche. Et donc, effectivement, une Bible, ça peut coûter cher.
Oui. Ouais.
Donc, vous recevez une Bible.
Pour 1$, ce jour-là, je fais l'acquisition de ma Bible que je voulais avoir depuis le printemps, depuis le printemps passé. Alors, j'étais tellement contente. Le soir même, je mettais mon nez dedans. Et le lendemain, on s'est retrouvés ensemble encore pour parler de quoi?
Je pense qu'elle vous a parlé, n'est-ce pas, de Jean chapitre 3. En fait, du texte de Jean chapitre 3, où un chef religieux des Juifs est allé voir de nuit Jésus pour s'entretenir en lui disant qu'il reconnaissait, lui et d'autres chefs religieux, qu'il reconnaissait, d'autres pharisiens, donc qu'il reconnaissait que Jésus était un envoyé de Dieu. Mais la réponse que lui a faite Jésus l'a extrêmement surpris. Et je pense que vous avez été surpris aussi par ce que vous a partagé Christine.
Oui, parce qu'elle et moi, on peut s'identifier un peu à Nicodème, qui était un chef des Juifs, un docteur de la loi. Donc, au Jésus, ce serait un théologien. Dans le monde catholique, qui serait peut-être curé, évêque, là. Alors, c'est quelqu'un de bonne référence. Et puis, elle me fait observer que le texte dit clairement, Jésus lui dit, ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Puis c'était un must. Alors, moi, j'étais toute surprise parce qu'on m'avait toujours enseigné qu'il me fallait faire des bonnes œuvres. Et je voyais aucune œuvre dans le texte qu'elle me citait, même pour un très bon monsieur qui qualifiait pour les bonnes œuvres. Alors, c'est là que comment ça se fait qu'on m'a caché la vérité pendant tant d'années. Le secret pour aller au ciel, c'est de naître de nouveau. Maintenant, c'est quoi la nouvelle naissance? Me grattait un petit peu la tête.
Bien, je sais que Nicodème se grattait aussi la tête, n'est-ce pas? Bien sûr, vous situez votre témoignage là dans un milieu catholique, mais je pense que vous êtes d'accord avec moi, Céline, pour dire que la situation se répète aussi dans des milieux protestants et évangéliques où des gens peuvent même parfois posséder une grande connaissance de la Bible, même des diplômes en théologie, mais justement n'avoir jamais expérimenté cette nouvelle naissance, ne pas connaître de façon personnelle le Seigneur Jésus-Christ lui-même. C'était ça le problème ici de Nicodème. Et le Seigneur Jésus l'appelle à se tourner vers lui de façon plus personnelle, justement, hein, qu'il ne faut pas se contenter d'une simple connaissance intellectuelle. Donc, je sais que ça ne s'est pas arrêté là, bien sûr. Christine a continué à élaborer sur la question.
Oui, mais elle a essayé de me lire ensuite Jean 3,16, là, où est-ce que ça dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique ». Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, ça confirme encore que c'est toujours par la foi et non par les œuvres. Elle y a mis 3 fois mon nom, car Dieu a tant aimé Céline qu'il a donné son Fils unique, afin que Céline, croyant en lui, ne périsse point, mais que Céline ait la vie éternelle. Ça me faisait étrange. Vraiment, là, c'était, j'avais jamais entendu ça, mais j'ai pas été saisie, là, de... Ça, non, c'est juste étrange, c'est un langage nouveau pour moi, ça. Et ce qui m'a touchée, c'est quand elle est tournée dans Ésaïe 53 et qu'elle a commencé à lire « Qui a cru à ce qui nous était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel et s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. » Et là, c'est le point important, il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Homme de douleur et habitué à la souffrance, et là, il continuait, mais moi, je l'ai arrêté. Parce que je trouvais qu'il y avait une injustice dans ce beau monde. On n'a pas choisi trop la bête avec laquelle on vit au monde. Alors, il y en a qui sont doués d'une beauté, ce qui leur apporte beaucoup d'amis et sont heureux. Et j'en voyais des jeunes femmes ou des jeunes hommes entourés d'amis parce que... Par contre, il y en a qui vivent au monde et puis malheureusement, les traits plaisent moins. Et ils ont peu d'amis et souvent ne goûtent pas au bonheur. Et j'ai vu des gens qui étaient ignorés, puis qui pâtissaient là, de... Ça leur manquait tellement des amis, mais on les ignorait parce qu'ils n'étaient pas attirants. Et ça, je me disais, c'est pas juste, on n'a pas choisi à quoi ressembler. Et quand elle m'a cité ça, que Jésus n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer les regards, j'ai compris que Dieu regardait non l'apparence, mais au cœur. Puis j'ai eu un vif désir de connaître la personne de Dieu qui regardait au cœur et non l'apparence.
Très intéressant, Céline. Et dans votre témoignage aussi que vous avez déjà donné, vous dites aussi que le Christ, lui, aurait pu choisir.
Exactement.
Qu'il n'était pas obligé, dans un certain sens, de vivre cette injustice-là. J'aimerais que vous élaboriez là-dessus.
Oui, j'avais oublié, effectivement, j'avais dit, Christine, lui, là, nous, on n'a pas choisi nos traits. Mais lui, il s'est incarné, il a choisi à quoi il ressemblait, puis il a choisi de s'identifier à ceux qui avaient ni beauté, ni éclat pour attirer les regards, puis homme de douleur et habitué à la souffrance, puis ça dit que, on l'a dédaigné, on n'a fait de lui aucun cas. Waouh, je me dis, ces gens-là peuvent être consolés, en tout cas, de savoir que le Créateur du monde, quand il s'est incarné, il a connu leur misère, il l'a vécu aussi. Et elle a tourné aussi en 1 Samuel 16-7, où ça dit que l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Moi, j'étais conquise, là. Je veux connaître ce Dieu-là qui regarde au cœur. Hein? On disait à l'époque, on aimait bien Saint-Exupéry, là. Il parlait plus monsieur, pas des paroles exactes, là, mais que l'invisible, c'est ça qui compte, hein.
Donc, un Dieu qui n'est pas superficiel. Là, on dépasse le niveau de la religion. C'est-à-dire qu'on arrive plutôt à la question d'une véritable relation avec Dieu. Hein? Et on sait que dans la Bible, Dieu appelle les hommes à entrer en relation avec lui. Dieu est un Dieu d'alliance. Mm-hmm. Dieu est un Dieu personnel. Dieu ne se contente pas d'un rite. Mm-hmm. Bien sûr que la Bible nous prescrit certains rites, hein, comme dans nos églises, on a la Sainte-Cène, le baptême, des choses comme ça, il y a des temps de rassemblement, mais le Seigneur ne se contente pas d'une simple religion dans le sens où on vient faire un peu nos devoirs religieux, puis après ça on repart en mettant Dieu de côté. C'est ça qui vous a frappé ici, là. C'est le fait que Dieu voit beaucoup plus loin que cela.
Oui, je voyais au cœur du christianisme non plus une religion, mais une personne. Mm. Une personne à suivre, Jésus-Christ.
Qu'est-ce que cette personne... Donc, vous voyez, en fait, Ésaïe 53, bien sûr, nous parle du Christ crucifié, hein, souffrant pour nos péchés. Qu'est-ce qui arrive à partir de ce moment-là?
Bon, c'est sûr que moi, j'étais conquise. Alors, dans mon cœur, elle l'a pas vu, elle l'a pas entendu, je me suis dit, désormais, c'est Jésus-Christ ma vie. Mais en même temps, la réflexion que suivit, c'était, youpi, une chance que j'ai fait les gaffes que j'ai faites parce que je pourrais plus jamais en faire. Pour moi, c'était inconcevable de vivre d'une façon immorale,
oui.
Puis de faire à sa tête, puis de continuer à le suivre. Alors, puis comme toute expérience vécue devenait une source de connaissance, puis on est en quête de connaissance, ça avait une valeur en soi. Puis je regrettais celle que j'avais pas faite. Bon, on m'était pas encore saoulée, a pas pris ben. Fait que il y a des choses, mais ça c'est pas la repentance quand on est fier d'avoir transgressé la loi de Dieu. Alors, en lisant les Écritures, je peux pas vous citer un verset exact, mais en lisant les Écritures, j'étais convaincue que mes gaffes n'avaient pas une valeur importante, mais étaient une véritable offense à la personne de Jésus-Christ. Et Romain dit, au moment donné, il dit, quel fruit portiez-vous alors? Il parle du temps avant qu'il connaisse Jésus-Christ. Il dit, des fruits dont vous rougissez maintenant. Et là, c'était plus youpi pour mes gaffes, là, c'était c'est honteux d'avoir agi comme ça. Et là, j'ai vraiment été convaincue de péché. Fait que la bonne fille, là, elle voyait que Dieu voyait jusque dans le secret du cœur, puis qu'on y cachait pas nos inclinaisons à gauche et à droite, là.
Effectivement, parce que Ésaïe 53 nous dit que la raison pour laquelle le Fils a été ainsi frappé, hein, le Fils de Dieu, mm-hmm. C'est qu'il a porté nos péchés. Hein, mm-hmm. Et l'apôtre Pierre de reprendre qu'il a porté nos péchés en son corps sur le bois. Mm-hmm. Il était maudit pour nous, justement, pour toutes nos transgressions. Mm-hmm. J'aime beaucoup ce que vous soulignez, Céline, à savoir que la véritable repentance implique l'idée que désormais, on ne se vante plus de nos péchés. Mm-hmm. Au contraire, on a honte de nos péchés, hein, parce qu'on entend souvent des gens nous dire « Oui, j'ai commis telle faute, mais ça fait de moi maintenant une personne meilleure, j'ai appris, et tout cela. » On comprend que parfois des gens, bien sûr, peuvent s'amender, mais la véritable conversion au Christ implique l'idée que on ne voit rien de bon dans nos fautes en tant que telles. Mm-hmm. Il est vrai que Dieu, après ça, peut se servir de tout cela, hein, mm-hmm. parce qu'il transforme le mal en bien, mais il a fallu, pour qu'on puisse recevoir le pardon de nos péchés, que le Fils de Dieu souffre à notre place. Hein.
Mm-hmm. Exactement. C'est ça la repentance d'un côté, hein, un changement d'idée. Alors, ce qui était pour moi représentait une valeur importante, c'est devenu c'est un changement d'idée. J'ai pensé maintenant comme Dieu, comme Jésus, j'ai confessé que c'était mal plutôt que de voir qu'il y avait une valeur attribuée à ça, là.
Donc, vous êtes approprié ce salut-là d'une façon personnelle?
Oui, on nous explique que c'est... Oui, on confesse nos péchés, puis on reconnaît que Jésus seul, qu'il est le chemin, la vérité et la vie, que nous ne viendrons au Père que par lui. Alors, puis, il ne met pas dehors celui qui vient à lui. C'est un peu simple, tellement simple que ça a été compliqué de le comprendre.
et on revient au texte de Luc, hein, où il nous a dit « Cherchez, vous trouverez. Uh-huh. Frappez, l'on vous ouvrira.
Uh-huh. »
Maintenant, ça, c'est bien sûr, c'est avec vos entretiens avec Christine. Vous avez commencé à lire la Bible. Une fois que vous tournez ici vers le Christ, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que...
Il se passe tout et rien. Rien, parce qu'on continue, j'étais aux études, j'ai continué à étudier, on est sur le marché du travail, on travaille, on continue à voir à notre survie, mais ça a tout changé. Moi, la première chose que j'ai connue, certains, ça a été une joie de vivre. Mon cœur était envahi d'une joie de connaître la personne de Jésus-Christ. J'aimais beaucoup mes parents, Ma mère s'est mariée à 20 ans et j'avais toujours désiré me marier à 20 ans comme elle. Ben, à la place, j'ai connu la personne du Seigneur Jésus plutôt qu'un mari.
C'est tout un mariage.
Et ça a changé ma vie autant que le mariage l'aurait fait. Ensuite, ça a donné beaucoup de réponses à des questions que j'avais. Alors, c'est comme si Dieu, j'étais convaincue de toute façon qu'il était le créateur de nos vies. Et avec le créateur, il venait un mode d'emploi qui nous disait comment être heureux. Mmh. Et ça, ça a apporté beaucoup d'apaisement. J'avais plus besoin de faire essais, erreurs avec les dégâts qui s'en suivent très souvent. Ensuite, ça m'a apporté une relation personnelle et intime avec Dieu au lieu de rites religieux. Mon père était devenu, Dieu était devenu un père, un confident, puis un ami. On est en difficulté, on lui confie nos besoins. Puis c'est pas que ça annule les difficultés ici-bas, mais on n'est plus tout seul pour les vivre. Je peux-tu vous citer celle-là, que j'ai beaucoup aimée, c'est que j'ai trouvé le grand médecin pour mon âme.
Amen.
Plus tard, dans le psaume 103, quand le psalmiste parle à son âme, souvent on a un dialogue avec nous autres, hein, avec nous-mêmes, il dit « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Puis là, il dit « C'est lui qui guérit toutes tes maladies. » Alors, les maladies de mon âme, là, c'est vraiment celui qui les guérit, puis qui fait que, malgré qu'on n'a pas une vie sans difficulté, quand ça fait mal, il pense et guérit.
Donc, vous êtes passé, Céline, d'une certaine religion, hein, d'une certaine forme de tradition judéo-chrétienne, à un christianisme authentique. Vous avez découvert le Christ. Vous êtes entré en relation avec le Christ. Vous croyez qu'il a donné sa vie pour vous. Vous pouvez aujourd'hui mettre votre nom dans le texte de Jean 3, 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné... Car Dieu a tant aimé Céline qu'il a donné son Fils unique afin que celle-ci croit en lui ne périsse point, mais qu'elle ait la vie éternelle.
Oui.
Peut-être j'aimerais juste terminer avec une chose, Céline, qui m'a frappé là, quand vous parliez tout à l'heure. Vous avez dit, bon, désormais, c'est plus une religion, c'est plus un simple rite. Est-ce que cela signifie qu'il n'y a plus de devoir dans la vie chrétienne, c'est-à-dire face à l'Église, à la fréquentation du culte, des choses comme cela. Parce qu'on entend parfois des gens dire, mais je suis pas religieux, je suis chrétien maintenant, et ils n'ont aucune discipline de vie chrétienne, même face à l'Église du Christ, ces choses-là. Est-ce que de dire que ce n'est pas une religion implique pour vous une espèce, je ne sais pas si on pourrait dire une indiscipline spirituelle, dans le sens que vous faites ce que vous voulez chaque jour selon ce que vous ressentez que c'est bien, selon votre humeur?
Si je faisais ça, je reviendrais à ma façon initiale de vivre, là. Je serais encore le maître de ma vie. Alors, quand on suit le maître Jésus-Christ, eh bien, on doit accepter ce qu'il dit, puis c'est certainement qu'il nous ajoute à une assemblée, à une église, qui est une famille. Et quand on est disciple, bien, on suit la discipline du maître. Et puis, dans sa discipline, c'est très, très important de participer à l'Église. Il est mort pour ça. Il est la tête. Et l'Église est le corps, pour ceux qui ont lu la Bible déjà, là. Alors, c'est impossible d'être un chrétien qui n'est pas rattaché à l'Église et visiblement à l'Église locale.
Sinon, on peut dire que la personne, comme vous l'avez si bien dit tout à l'heure, n'a pas réalisé réellement l'ampleur de son péché, du fait que avant sa conversion, cette personne-là transgressait les commandements de Dieu. Et donc, nous sommes sauvés par la grâce, mais non pas par nos œuvres, mais nous sommes sauvés pour de bonnes œuvres.
Exactement.
Pour désormais suivre le Seigneur Jésus. On reconnaît maintenant que Dieu est Dieu, hein, et qu'il a des droits sur nous, il a un droit de regard, et que le Christ est Seigneur, hein, qui doit régner sur notre cœur. Vous aimeriez ajouter un petit quelque chose pour nos auditeurs, nos auditrices, Céline, ce matin ou cet après-midi, tout dépendant à quelle heure va passer cette émission. Est-ce que vous aimeriez ajouter quelque chose avant de nous quitter, Céline?
C'est un choix qu'on ne regrette jamais. Et je dirais, comme les prophètes ont dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Un verset que j'aime beaucoup dans Apocalypse, c'est que si quelqu'un... Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Cette belle intimité-là, elle goûte vraiment bon.
Amen. Merci beaucoup, Céline. Merci d'avoir pris le temps de venir dans nos studios nous partager ce beau témoignage de vie transformée par la puissance du Christ ressuscité. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que le Seigneur vous bénisse aussi, chers amis qui êtes à l'écoute. Et puissiez-vous, si vous ne connaissez pas ce Seigneur Jésus-Christ, le connaître le plus rapidement possible. Et à l'exemple de Céline, pour cela, bien sûr, il serait bon de vous procurer une Bible, ou ne serait-ce que le Nouveau Testament, de l'ouvrir, de fréquenter une église chrétienne où la parole de Dieu est prêchée, pour être capable d'entendre le message, justement, et de pouvoir jouir de sa puissance transformatrice. Donc, que le Seigneur vous bénisse abondamment et au plaisir de se retrouver pour une nouvelle émission de Paroles de témoins sur les ondes de CFOI FM.